Bonsoir, c'est Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Et pour une fois, je suis toute seule à annoncer cette émission, mais j'espère bien que mon acolyte va bientôt me rejoindre, car j'ai besoin de lui pour vous parler d'un thème que nous allons développer tout au long de cette édition et de cette émission dans deux formats différents. D'abord une interview dans quelques instants, et puis parler de romans plus ou moins noirs et d'albums tout aussi noirs pour évoquer un pays dont on a beaucoup parlé ces six premiers mois, mais peut-être nous on va l'aborder sous un angle un petit peu différent. Le cadre, c'est l'Algérie. On va parler évidemment de la guerre d'Algérie, ceux dont certains ont parlé des événements, mais nous on préfère parler de guerre d'Algérie. Et puis on va tourner autour de ce thème et peut-être évoquer l'avant, l'après et l'actuel. Et puis, en fin d'émission, une petite envolée vers le paradis des chiens, un paradis un peu mystérieux, mais je vous en dirai plus un peu tout à l'heure. Et donc, comme je vous l'ai dit, notre thème sur l'Algérie, on a le grand plaisir d'accueillir Jacques Ferrandez. Jacques Ferrandez, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre, on sait que vous êtes très occupé, surtout avec une superbe exposition à Paris dont on dira un mot tout à l'heure. On va évoquer pour cette émission votre adaptation en bande dessinée du roman Alger la Noire, qui est un roman initialement sorti en 2006. C'est l'auteur en est, pardon, Maurice Attia, aux éditions Actes Sud. Et une première question avant de parler un peu de vos nombreux albums. La première, c'est finalement, vous tournez toujours autour de la Méditerranée?
Oui, et puis peut-être particulièrement autour de l'Algérie, ça fait un bout de temps que c'est un sujet qui m'occupe beaucoup. Et je croyais en être sorti quand j'ai terminé le deuxième cycle des Carnets d'Orient, c'est-à-dire avec Terre Fatale qui est sorti en 2009. En fait, j'ai replongé assez vite parce que là, j'ai eu l'occasion de faire l'adaptation d'une nouvelle de Camus à laquelle j'avais envie d'adapter depuis très longtemps, qui est une nouvelle
L'hôte
de l'exil et le royaume, c'est ça, L'hôte. Donc là, à nouveau, on est en Algérie, mais là, on est plutôt sur les hauts plateaux, dans une Algérie âpre et dure, et sans doute au début de la guerre d'Algérie. Et puis, en fait, j'avais envie de revenir au polar, qui était une de mes premières activités quand j'ai commencé dans la bande dessinée. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de confluence avec ce roman de Maurice Attia que j'avais lu à l'époque, en 2006, quand il est sorti. J'avais rencontré l'auteur. D'ailleurs, je crois bien que c'est grâce à vous, parce que c'était
à Cannes,
au Salon du Polar, oui. Ça va être en 2006 ou en 2007, je crois. Mm-hmm. Et puis l'idée était, voilà, c'était venu sur la table de d'un jour ou l'autre adapter ce roman. Et puis en fin de compte, j'attendais, de toute façon, j'avais bien dit à Maurice Attia que je tenais d'abord à terminer mon cycle sur les Carnets d'Orient, puisque son histoire se passe au même endroit et au même moment que le dernier tome Terre Fatale. Sauf que là, évidemment, on est dans un registre tout à fait polar, complètement noir, et en réalité, c'est ce qui s'est passé, puisque j'avais envie de revenir au polar dans la collection Rivage Noir à Casterman. J'ai lu quelques romans chez Rivage qui pouvaient faire l'affaire, disons, et puis là, je me suis dit, bon, voici, puisque Maurice doit être en train de piaffer d'impatience, comme on arrive en 2012, qui c'est le moment, donc là, on était fin 2010, et je me suis remis, en fait, sur l'Algérie à travers ce roman.
Alors, je signale comme ça, en deuxième partie d'émission, on va parler d'un Rivage thriller, justement, qui se passe en Algérie, qui pourrait peut-être vous intéresser, Farouk Salamé. On en reparlera ensemble. Avant quand même de continuer sur Alger la Noire, j'aimerais quand même un peu parler de tous les albums, enfin, évoquer au moins tous les albums pour les quelques auditeurs qui vous connaîtraient pas encore. Donc, on a évoqué ensemble les Carnets d'Orient, 10 volumes, je ne me trompe pas, hein, qui commencent époque coloniale jusqu'à la guerre d'Algérie, donc qui est évoqué aussi.
En deux cycles, en fait, c'est-à-dire 5 albums qui traitent de la période coloniale entre 1830 et 1954. Je croyais d'ailleurs en avoir fini à ce moment-là, quand le dernier album de ce cycle, Le cimetière des princesses, est sorti en 95. Ben là, du coup, je suis revenu au polar à l'époque avec Tonino Bellacquista, où j'ai fait L'Outre-Mangeur et ensuite La Boîte Noire, entre autres, parce que j'ai fait aussi d'autres albums dans l'intervalle. Et puis, voilà, à la fin des années 90, début des années 2000, je me suis dit, je vais reprendre mes personnages pour les emmener sur la guerre d'Algérie. Et là, donc, il s'agit à nouveau de 5 volumes qui se déroulent entre 1954, enfin entre novembre 54 et juillet 62, c'est-à-dire du début de l'insurrection à l'indépendance, à travers 5 albums qui, voilà, qui pour le coup, là, suivent des personnages qu'on va pouvoir, j'allais dire, garder de bout en bout, puisque dans le premier cycle, on avait une période qui était beaucoup plus longue, qui s'est talonnée, qui s'est allée en fait, entre 1830 et 1954. Donc là, j'avais effectivement le principe de carnet qui revenait d'une histoire à l'autre et qui permettait de faire le lien entre tous ces albums.
Alors, vous alternez entre scénarios originaux, donc dans ces carnets d'Orient, et vous aimez aussi adapter des auteurs célèbres, d'ailleurs. Vous avez adapté Pagnol,
vous avez
donc travaillé avec Tonino Benacquista. Et puis, j'aimerais aussi qu'on dise un mot sur ces magnifiques carnets de voyage sur le Liban, la Syrie, ou bien encore Istanbul. Comment vous choisissez vos endroits ? Bon, encore la Méditerranée, n'est-ce pas ?
Toujours la Méditerranée, ben en fait, il se trouve que chronologiquement, ces carnets sont intervenus précisément au moment où j'étais entre deux, c'est-à-dire entre la fin du premier cycle et le redémarrage des carnets d'Orient. Donc, effectivement, à la fin des années 90, j'ai eu pas mal l'occasion de me balader un petit peu tout autour du bassin méditerranéen et ça m'a pris comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je peux faire moi aussi me mettre dans la peau d'un peintre voyageur, hein, comme le personnage de mon premier tome des carnets d'Orient. Et là, pour le coup, ça devenait des vrais carnets de voyage, et c'était l'Orient, en tout cas le Proche-Orient réel, puisque en effet, dans les carnets d'Orient, il s'agit de l'Algérie, ce qui est un paradoxe, mais ça, c'est ce que j'explique tout au long de mes récits, c'est que ce malentendu et ce mal vu sur l'Algérie vient déjà du fait que le Maghreb, pour le monde arabe, c'est l'Occident. Donc, vous voyez, nous, on appelle ça l'Orient, pour eux, c'est l'Occident. Donc, on est déjà sur un malentendu, sur une espèce d'incompréhension au départ. Mais pour le coup, quand j'ai commencé à me balader et à vouloir ramener des choses de ces pays, que ce soit le Liban, la Syrie, l'Irak, où j'ai eu l'occasion d'aller avant l'intervention américaine, ou des villes beaucoup plus fréquentées comme Istanbul, là, il s'agissait de faire pratiquement de me mettre dans la peau, en effet, du peintre voyageur, et puis de ramener à la fois du texte et du dessin, un peu comme le faisaient justement ces voyageurs du 19e siècle, avec le carnet de croquis et les aquarelles en main, et puis avec aussi le récit de voyage.
Voilà, un orientaliste du 21e siècle, on va dire. Un petit peu. Alors on va quand même revenir à Alger la Mémoire, mais quand même, allez, on fait encore une petite digression. Beaucoup de ces dessins, beaucoup de ces croquis, et peut-être de ceux qu'on n'a jamais vus dans des albums, sont actuellement à Paris, aux Invalides, pour une exposition. Vous nous en dites deux mots, s'il vous plaît ?
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, j'ai été contacté par le musée de l'armée aux Invalides, moi qui suis ni militariste, ni invalide d'ailleurs.
Bravo pour les deux, si je peux me permettre.
Mais ils m'ont contacté parce qu'en fait, ils voulaient justement faire une exposition 50 ans après, disons, sur ce qu'avait été le rôle et l'action de l'armée entre 1830 et 1962, mais vu à travers un regard tout à fait historique, c'est-à-dire en pensant justement que 50 ans après, on peut peut-être parler de ce sujet-là sans tabou, en tout cas toujours en essayant évidemment à travers le parcours historique, enfin pouvoir en parler avec le recul de l'histoire, mais aussi on sait bien que c'est aujourd'hui un sujet très très sensible. Donc quand ils m'ont proposé ça, j'étais un petit peu méfiant parce que je me suis dit bon, c'est le musée de l'armée, qu'est-ce qu'on va raconter avec cette histoire-là. Moi, il m'avait appelé parce que justement à travers mes bandes dessinées, je couvrais toute la période, ce qui permettait effectivement d'avoir en contrepoint par rapport aux collections du musée, c'est-à-dire évidemment il y a des uniformes, il y a des armes, il y a aussi des affiches, des proclamations, des toiles, des photographies, des films. Évidemment, plus on arrive vers l'époque moderne, il y a aussi beaucoup de films, et donc tout ça vous devez être montré dans cette exposition. Et bon, il a suffi qu'on s'entende sur les historiens qui participaient au comité scientifique de l'exposition, avec des gens comme Benjamin Stora, Jean-Charles Geoffrey, même Raphaël Branche, qui est une spécialiste de la torture, participe à cette expédition. Vous voyez, je suis toujours sur Alger à cette exposition. Donc là, ça m'a, disons, tranquillisé, parce que je voulais pas être, si vous voulez, l'otage d'une exposition qui aurait lieu dans ce lieu prestigieux, et surtout, je voulais pas que mon travail de 25 ans puisse être détourné ou récupéré dans un sens qui ne serait pas celui que j'avais voulu lui donner. Et en fait, j'étais tout à fait tranquillisé, et en réalité, bon, c'est une très belle exposition, avec les moyens aussi de ce musée-là, qui est une espèce d'institution, et où, pour la première fois, on peut voir énormément de choses relatives à cette histoire-là, mais avec aussi des témoignages aujourd'hui, y compris d'historiens algériens d'ailleurs, qui sont interrogés à travers des écrans. Il y a une quarantaine d'écrans en tout, avec à la fois des films d'archives, mais aussi des interviews d'historiens ou de témoins qui sont toujours là, quoi. Donc ça, voilà, c'est une exposition qui aura lieu jusqu'au
27 juillet,
et qui est une forme de reconnaissance aussi pour mon travail.
Alors, pour les auditeurs qui se déplaceraient à Paris d'ici le 27 juillet, tous les renseignements sur www.invalide.org. On revient à Alger Lannoy. Donc, plutôt que de commencer par raconter l'histoire, je pense que c'est intéressant de rentrer dans cette histoire par les personnages. Parce que, bien sûr, il y a une enquête, mais pour moi, il y a quatre personnages principaux. On parlera du dernier, Alger, en dernier. Il y a Paco, il y a Irène. Alors, comment vous avez petit à petit construit en particulier ce personnage d'Irène qui est, avec la grand-mère, je trouve, les deux femmes fatales de cette histoire?
Oui, comme dit Paco, il a deux femmes dans sa vie, sa grand-mère qui l'a élevée, et puis qui est orphelin de père, lui-même étant donc il est inspecteur de police à Alger, il est orphelin de père parce que son père a été tué pendant la guerre d'Espagne, donc une autre guerre civile.
Une autre guerre.
Et son père donc était anarchiste espagnol, tué par les communistes, croit-il, c'est en tout cas ce que dit la légende familiale, élevé par une grand-mère qui a quitté l'Espagne au moment de la prise de pouvoir par Franco,
qui vit à Babel-Ouest.
Et donc, ce Paco, lui, Paco Martinez, se trouve, bon, inspecteur de police, et il se trouve mêlé, si vous voulez, de par son métier à une enquête policière, mais à travers le contexte historique, à une période qui est la période de la fin, c'est-à-dire c'est la période du chaos.
Oui, on commence début 62.
Voilà, on est entre janvier et mars, avril 62 dans ce récit, et c'est une période complètement chaotique, complètement troublée, où il y a des dizaines de morts tous les jours à Alger, et lui il va s'intéresser particulièrement aux deux cadavres qu'on trouve dès le début du récit, qui sont un couple,
deux jeunes.
Une jeune française et un jeune algérien, qui sont enlacés nus sur la plage et qui ont été assassinés, et pour ce qui concerne le garçon, mutilés, avec en plus de ça une signature qui est celle de l'OS, mais l'inspecteur Paco n'y croit pas beaucoup, et en effet il va d'abord mener l'enquête avec son partenaire qui lui est un vieil inspecteur issu de la communauté juive d'Alger,
Maurice l'inspecteur Choukroun.
Voilà, qui va, bon, on va pas raconter, mais à un moment donné, le Paco va devoir continuer son enquête seul, ou en tout cas épaulé par Irène. Et Irène, effectivement, c'est sa maîtresse, sa fiancée, sa chérie, qui est une rousse incendiaire et qui est unijambiste du fait de l'attentat du casino de la Corniche en 57 à Alger, où elle a perdu donc une jambe. Et donc, il y a cet aspect assez, comme ça, assez baroque dans ce récit, puisque en fait, tous les personnages sont abîmés, ont quelque chose.
Ils sont un peu cassés de l'intérieur et de l'extérieur.
Voilà, ils ont quelque chose, en effet, qui les marque, par rapport même à cette histoire qui est en train de se dérouler. Et il y a un tas de personnages, il y a une galerie de personnages. En fait, la difficulté, si on veut, de cette adaptation, c'est que le roman fait 400 pages ou davantage.
Oui, c'est un petit peu ce dont je voulais parler aussi.
Et moi, je voulais pas dépasser 120, 130 pages, bon, pour des raisons, enfin, pour plein de raisons, mais voilà, sur cette bande dessinée, je voulais pas, c'était déjà beaucoup, parce que moi, mon standard habituel, c'est une soixantaine de planches quand je fais mes albums en solo. Donc là, on était sur une distance déjà deux fois supérieure. Et il a fallu, en fait, j'ai fait l'adaptation que j'ai soumise à l'auteur, mais pour moi, il s'agissait effectivement d'aller à l'os, quoi, puisque c'est une histoire, et c'est là qu'on se rend compte d'ailleurs de la construction d'un scénario, quand on commence effectivement à se focaliser sur la structure simplement du récit, on se rend compte si ça marche bien ou si ça se casse la gueule, quoi. Et là, ça marchait bien, et en plus de ça, bon, le récit, le roman est très très documenté par rapport aux événements.
Par rapport à la guerre, oui.
Au jour le jour, on peut suivre effectivement le déroulement de ces événements, et évidemment tout ça est suivi, si vous voulez, par le prisme d'une histoire très noire, très sombre, avec effectivement cette enquête qui va se poursuivre en dépit de tout ce qui est en train de se passer autour et qui concerne la grande histoire.
Voilà, oui, et donc c'est justement un petit peu là où je voulais en venir, c'est-à-dire le fait, ce me semble, ce qui vous a certainement très intéressé dans le roman de Maurice Attia et que vous avez parfaitement su mettre en scène, c'est l'idée de suivre les histoires personnelles avec en toile de fond la grande histoire, les petites histoires dans la grande histoire, et de rien louper des deux finalement.
Ben ça, c'est un peu ce qui m'a animé dès le départ, même avec les Carnets d'Orient, c'est-à-dire effectivement de raconter ce qui se passe à travers des destins individuels dans une grande histoire, et puis voir comment les gens se dépatouillent avec cette grande histoire dont nous avons la solution, c'est-à-dire que nous, on sait comment ça s'est terminé, cette histoire. Mais les gens, au fur et à mesure qu'elle se déroule, évidemment, ils connaissent pas la fin. Donc c'est la grande supériorité, évidemment, ou de l'historien ou du romancier, c'est d'avoir, disons, la fin du récit, mais l'intéressant, c'est de mêler ces personnages à cette grande histoire et de voir comment eux vont réagir par rapport à des événements, évidemment, qu'ils ne maîtrisent pas. Et là, on est en plein dans cette histoire-là, puisque, en effet, avec cette mort qui est partout, avec cette ambiance de guerre civile, de fin d'un monde, d'Alger, au moment de la fin de l'Algérie française, si on veut, et on a en permanence, et ça, j'ai pas voulu non plus l'évacuer par rapport au roman, on a en permanence, si vous voulez, Eros, Thanatos, c'est-à-dire que la mort est partout, mais la pulsion de vie continue, évidemment, d'être là, et même d'être exacerbée, puisqu'il y a quelques scènes dans cette bande dessinée entre Paco et Irène, que j'ai d'ailleurs
un petit peu chaude, oui.
Assez chaude et qui sont d'ailleurs pas tellement dans mon registre habituel, puisque, non. Voilà, c'est pas, je ne désigne pas du tout dessiner ça, mais ça s'imposait pas vraiment dans mes scénarios précédents, dans les scénarios que je menais précédemment, mais là, j'ai pas voulu, disons, l'évacuer par rapport à ce qui est raconté dans le roman de Maurice Attia.
Et Maurice Attia, psychanalyste, sait à quel point, effectivement, Eros et Thanatos, dans ces événements violents, sont souvent liés. Là aussi, entre les Carnets d'Orient et Alger la Noire, ce qui nous avait tellement interpellé et plu dans les Carnets d'Orient, et qui nous plaît toujours, parce qu'ils sont toujours évidemment disponibles, il faut vraiment les découvrir si nos auditeurs les connaissent pas, c'est l'idée aussi de couvrir un peu, pas toutes les idées, on peut pas, mais au moins de voir les différents points de vue et de ne pas prendre un point de vue seulement, de regarder tous les prismes.
Pour moi, c'était important parce que, vous savez, moi, je suis né à Alger en 55, donc déjà dans un pays en guerre, même si c'est une guerre qui ne disait pas son nom. Et puis, mes parents ont quitté assez rapidement, ils n'ont pas attendu forcément 1962 comme beaucoup. Donc, il n'y a pas eu cette douleur, si vous voulez, que beaucoup ont dans leur chair et même dans leur mémoire par rapport à cette histoire. Ce qui fait que moi, ce qui m'a intéressé, c'est finalement ne pas être dans la nostalgie, ni dans le sentiment du paradis perdu, ou je ne sais quoi, mais c'était plutôt être dans la tentative de comprendre ce qui s'était passé. Puisque moi, c'est une histoire finalement qui m'a produit, hein, je suis né à Alger à ce moment-là, sans évidemment l'avoir décidé. Et ce qui m'intéressait finalement, c'est de savoir pourquoi j'étais né là, qu'est-ce qu'avaient fait les gens avant moi dans ce pays, et puis ça, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en plus de ça, il y a une dimension romanesque à tout ça qui évidemment ne m'a pas échappé et que j'ai mené et que j'ai essayé de transmettre à travers un récit de fiction, quoi, mais toujours en effet avec un contexte historique le plus rigoureux possible.
Et en tout cas,
Maurice Attia n'a pas fait autrement, disons, puisque dans son roman aussi on met en scène des personnages très différents et on a comme ça une espèce d'éventail de ce qui pouvait être dit, pensé et agi aussi à ce moment-là.
Alors malheureusement, il nous reste quelques dizaines de secondes. Simplement, votre passion, votre obsession continue, puisque maintenant, on passe à un grand de la littérature, Camus et l'étranger.
C'est-à-dire qu'effectivement, après l'autre, les éditions Gallimard m'ont proposé de me saisir d'un autre texte de Camus. Or, j'ai beaucoup hésité entre Le Premier Homme et l'Étranger. Peut-être nous en reparlerons à l'apparition de l'Étranger, mais disons, c'est celui-ci que j'ai choisi.
J'espère bien, parce que c'est un grand roman noir pour moi.
Et absolument, moi je suis absolument d'accord avec ça. Et là, contrairement au Premier Homme, qui nécessitait un travail d'adaptation beaucoup plus pointu, disons, puisque c'est un roman inachevé, autant dans L'Étranger, on a un véritable scénario et qui en effet est un roman noir, et à la fois très noir et très solaire, puisque là je vais justement utiliser beaucoup la double page comme j'ai fait pour l'autre. D'ailleurs, l'autre c'était pour mettre en scène le paysage et la solitude du personnage principal. Là, ce sera pour mettre en scène la mer, le soleil, dont on sait évidemment qu'ils ont une part primordiale dans ce qui arrive à Meursault, le personnage principal. Et voilà, je suis en plein dedans là, donc l'adaptation est faite, le scénario, le découpage sont
donc
faits.
Donc on se retrouve en 2013 pour en parler.
Eh bien voilà, on attendra 2013.
Et puis tout à l'heure, on écoute un petit morceau, non pas de votre voix, mais de votre musique, parce que vous avez plein de cordes à votre arc. Jacques Ferrandez, merci infiniment, et on rappellera les coordonnées et de l'expo et des albums en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup Jacques, au revoir.
Merci, au revoir.